partons à la découverte du moulin à sang de Courbon.
René Didier est membre de l'association Les Résidents de Courbon, fondée en 2008. Il vit à Courbon depuis 42 ans. Passionné par le patrimoine de ce village surplombant Digne-les-Bains, il présente le moulin à sang, un moulin actionné par une force animale et qui a fonctionné jusqu'à la moitié du XXe siècle, notamment pour produire de l'huile de noix. René Didier répond aux questions d'Odile Frison.
Courbon est un ancien village fortifié, moyenâgeux, mais qui date de bien avant, on ne sait pas exactement dater son origine. Mais au départ, c'était donc une seigneurie avec son beffroi qui appartenait au seigneur. Et beaucoup de gens sont venus s'agglutiner autour du rocher de Courbon pour travailler pour le seigneur. C'est un peu le point de départ. Après, sur les vestiges les plus anciens que nous ayons sur Courbon, il y a les restes du prieuré Sainte-Eugénie, dont on a retrouvé des archives qui datent des années 1180. Donc là, nous sommes dans un ancien moulin de Courbon, dont on a retrouvé aussi dans les archives des documents qui remontent à 1585, ce qui fait supposer que ce moulin est encore beaucoup plus ancien. Ensuite, comment définit-on un moulin? On le définit par son moyen de, enfin son moteur, qu'est-ce qu'il fait tourner. On le définit aussi par sa production. Il y a trois variétés de moulins, en gros. C'est le moulin à eau, qui tourne avec l'eau, évidemment, le moulin à vent, et le moulin qu'on appelle à sang, c'est-à-dire qui est tourné soit par une force humaine, soit par une force animale. On le définit aussi par sa production, qu'est-ce qu'on passe dans le moulin, c'est soit pour faire de l'huile, soit pour faire de la farine, soit pour faire du plâtre, enfin bref, il y a plusieurs variétés de moutures.
Celui-ci, c'est un moulin à sang.
Ici, c'est un moulin à sang qui était entraîné soit par un mulet, soit par un âne. Donc cet âne ou ce mulet devait travailler 3 heures par jour. Il tournait évidemment, il tournait autour du moulin, hein, de la meule dormante, disons, qui est construite sur un appareil en parpaing et en ciment, avec des planches assez épaisses. Et la grosse pierre venait en tournant écraser, c'est la meule tournante, disons, qui venait écraser les cerneaux de noix, parce qu'à Courbon, à l'époque, il y avait beaucoup de noyers et les gens buvaient l'huile de noix.
Ce moulin est inactif depuis combien d'années?
Alors ce moulin est inactif, on a eu des documents qui disent qu'il a encore fonctionné en 1942, parce que c'était un peu pendant la guerre, les gens manquant, il n'y avait déjà plus d'huile de noix de noyer à Courbon à ce moment-là, mais il a commencé à y avoir des olives. On pense que les gens ont pressé des olives, ou des amandes plutôt, pour avoir un peu d'huile, parce que c'était une époque de disette sur Courbon. Voilà, donc 1942, on pense que c'était la dernière fois que ce moulin a pu tourner.
Ce moulin, il appartient à qui? À la commune?
Oui, c'est la commune qui en est propriétaire. Donc là, c'est l'association pour les résidents de Courbon qui le fait visiter de temps à autre à la demande d'associations, ou à la demande de curistes, ou à la demande de familles. On le laisse comme ça en l'état pour expliquer un peu aux personnes qui viennent le visiter comment ça fonctionnait à l'époque.
Est-ce que vous pouvez me donner quelques indications sur ces appareils?
Voilà, ben je vais vous expliquer un peu déjà comment ça fonctionnait. Déjà, il y avait la cueillette des noix. Ça, c'était pas rien. C'était en principe les hommes qui faisaient tomber les noix avec des grandes perches ou des gaules qu'on appelait. Donc ils gaulaient les noyers en essayant de pas trop les fracasser. Et donc ils faisaient tomber les noix et au sol, ce sont les enfants qui les ramassaient avec les grands-parents. Et après ces noix, elles étaient donc mises dans des clayettes ou des cagettes. Elles étaient portées dans les maisons et on les mettait dans les greniers pour les faire sécher. Parce qu'il y avait encore autour de la noix un peu de la broue de noix, l'écorce de la noix. Donc on les amenait dans les greniers, elles étaient séchées, et on les remuait de temps en temps avec un râteau, et après elles étaient mises dans des sacs. Et après, on les laissait encore un peu sécher. C'était ramassé donc entre le mois de septembre et le mois d'octobre. Et après, au mois de janvier, ou en décembre plutôt, on cassait les noix. Donc ça faisait des réunions dans les familles. Les plus anciens cassaient les noix. Et ceux qui voyaient un peu plus clair, les jeunes, eh bien ils triaient après pour enlever les cerneaux de noix. Parce que c'était cela qui allait être utilisé après, soit pendant l'année pour se nourrir, soit pour faire de l'huile. Voilà, alors on triait les cerneaux qui étaient les plus blancs. Ça c'était pour faire de l'huile. De l'huile de noix. Et après, les cerneaux qui étaient un peu plus sombres étaient un peu mis de côté. Et on les pressait aussi pour en faire de l'huile pour éclairer. On utilisait ce qu'on appelait à l'époque les caléos, ou alors les calins. C'était des petites lampes à huile. Donc on mettait cette huile-là. Et on l'utilisait soit pour éclairer la journée, soit pour se lever la nuit. On appelait ça les câlins, souvent, hein, parce que c'est souvent la maman qui se levait la nuit pour le petit, pour ne pas réveiller le papa. Donc, on allumait la petite lampe, qui s'appelait le câlin. Autrement, on avait les grosses lampes pour éclairer dans les maisons. les lampes à huile. Dans ce moulin, comment ça se passait? Disons, la construction du moulin, donc il y avait l'axe central, donc c'est la meule dormante, hein, qu'on dit, dans laquelle on met les cerneaux de noix, et ça c'est pour écraser les cerneaux de noix, uniquement. Après, on prend cette pâte, qui est là, ça fait une forme de pâte, et on va la faire chauffer. Il y avait une cheminée au sol, avec un conduit de cheminée. Et là, on mettait dedans des chaudrons en cuivre, dans lesquels on mettait cette pâte, pastéo, comme on disait. On mettait là-bas pour le faire chauffer, parce que l'huile coule mieux quand c'est un peu chaud. C'est pour ça que déjà dans ce moulin, c'était tout fermé, c'était pour garder la chaleur. On faisait du feu et c'était un peu chaud, parce que l'huile froide, ça ne coule pas très facilement. On faisait chauffer cette pâte jusqu'à une température avec laquelle on pouvait mettre la main dedans. Dès qu'on ne pouvait plus mettre la main, il fallait l'enlever parce qu'il ne fallait pas faire cuire la pâte. Après, on sortait la pâte, on prenait ces récipients en cuivre, on les apportait sur la presse. Oui, ici, vous aviez un pressoir. Alors ça, c'est pas le pressoir d'origine. C'est un pressoir qui a été refait dans les années 1880, 1850, je ne sais pas, dans cette période-là. Vous voyez, c'est en métal. Et avant, c'était tout en bois. Il y avait une vis en bois. Ça, c'est du bois. Il y avait une vis en bois. Et avec la presse en bois. C'est tout en bois. Et là, vous avez en dessous le petit récipient, là, dans lequel on mettait donc les cerneaux de noix, la pâte qu'on avait apportée là-bas, qui avait été chauffée. On la menait là-dedans et on faisait descendre la presse. Donc dessus, ben, il combinait après, parce que là, c'était pas trop adapté avec ça. Mais enfin, on prenait quelque chose qui était adapté et qui s'enfonçait dedans, et l'huile sortait ici. Ça, c'était un peu la pression avec le chaud. Mais quand on voulait faire de la pure huile de noix vierge, on prenait les cerneaux sans les faire chauffer. On prenait la pâte, là, et on la mettait là directement. Hein, il y avait deux façons de faire. Seulement, ça coulait plus lentement avec une pâte froide qu'avec une pâte chaude. Et après, avec la presse, basse treuil. C'est-à-dire que la presse, vous voyez, on tirait comme ça, on tirait avec le... Donc la presse, elle est faite donc avec la presse, et puis au bout, il y a un grand timon. C'était une grande... pour avoir de la prise, pour pouvoir forcer. Et après, ils ont rajouté donc un treuil pour vraiment faire la dernière pression pour que tout le jus de la noix, toute l'huile de noix sorte. Donc on avait cette corde qui se mettait au bout du timon et on faisait tourner le treuil pour faire descendre la presse. Ça, c'était donc, ça s'est rajouté à la fin, ça c'était dans les années, je vous dis, 1850, 1880. Alors actuellement, il n'y a plus de noyers à Courbon, parce que les noyers ont disparu suite, je pense, surtout à la commercialisation, c'est-à-dire que de plus en plus avec les chemins de fer en 1850, après les voitures, tout ça, les trains, donc il y a eu beaucoup de commerce. On a trouvé les noix meilleures dans la vallée du Grésivaudan, du côté de Grenoble, et puis on a trouvé que l'huile d'arachide, des fois c'était assez commode de l'acheter, l'huile d'arachide, l'huile de tournesol, donc tout ça a fait que les noyers peu à peu disparaissent. Ils ont disparu au début du XXe siècle, et ils ont disparu aussi parce que c'était, pour les gens d'ici, une source de revenus, parce que c'était acheté très cher par les ébénistes. Et puis, pour la petite histoire, on dit que ça a servi aussi pour faire les fusils Lebel pour les Français et les Moser pour les Allemands, en passant par la Suisse, pour les années 14-18. Voilà, c'est la petite histoire, mais autrement, je pense que c'était surtout pour faire de l'ébénisterie, et que les gens avaient plus le choix dans les huiles, hein, de ça, c'était des huiles autres que l'huile de noix. Moulin, c'était un lieu public, c'était un lieu qui appartenait à la commune de Courbon, et c'est un lieu aussi où on a retrouvé des documents où on rendait la justice. C'est-à-dire qu'on a trouvé un document où un juge était monté à Courbon et a rendu la justice dans le moulin par rapport à des petits problèmes de voisinage. Vous savez, c'était le troupeau de moutons d'une personne qui est allée manger les jeunes amandiers que le voisin avait plantés dans son jardin. Donc, il ne voulait pas le reconnaître, ce monsieur, que ses brebis avaient tout mangé. Donc, voilà, ça a entraîné un petit litige qui était traité dans ce lieu. C'était l'année exacte, je l'ai peut-être là, le 25 Brumaire de l'an 16 novembre 1800. Ce moulin n'est plus en fonction parce qu'en haut, il y avait une grande planche qui tenait l'axe central qui permettait à la meule tournante de tourner, effectivement. Et cela a été cassé, donc il n'est plus, il ne peut plus tourner. Mais autrement, il y a en bas, normalement, une grenouillère, c'est-à-dire que l'axe central se met et est libre en bas, il peut tourner, ce qu'on appelle un réceptacle en bas, qu'on appelle la grenouillère. Et en haut, normalement, on creusait le bois, et l'axe central tournait là-haut dans le bois. Et autour, donc, il y a l'âne, qui était ici, sur le timon de la meule tournante. Et donc, il tournait autour, là, on lui mettait des œillères, pour pas qu'il soit étourdi, parce qu'il tournait pendant 3 heures. Et il avait ses rênes qui étaient attachées là-haut et qui tournaient avec lui. Donc il ne pouvait pas se déporter. Il était obligé de tourner. Il y a une expression provençale, on dit il est fadoil. Hein, Padoie, il fait de l'huile. On supposait que l'âne, quand il sortait, il titubait, hein, puisqu'il avait tourné pendant 3 heures. Alors, on disait, des gens un peu rigolos, on disait, il est Padoie. Il a fait de l'huile, donc il titube un peu, il a un peu trop bu peut-être.
Et des moulins comme celui-ci, est-ce qu'il y en a beaucoup dans le 04 ou près de Digne ?
Il y en a un à Entrevaux qui date du XVIIIe siècle et qui a fonctionné, je ne sais pas s'il fonctionne encore, mais qui a fonctionné il y a très peu de temps encore. Oui. Après il y a des moulins avant, oui tout ça, mais des moulins de cette acabit-là, il n'y en a peut-être plus beaucoup.
Pour les gens qui voudraient en savoir plus ou pour participer aux visites éventuelles, il y a un site ou des coordonnées.
Oui, donc c'est l'association de Courbon. Après, c'est des gens, des personnes particulières de l'association qui font visiter. Donc, on peut s'adresser à Monsieur Guy Bousquet, qui est président de l'association. Et là, il y a toujours une personne qui peut être disponible pour faire visiter. En dehors de ce moulin, évidemment, il y a l'église de Courbon, il y a le beffroi. Et puis il y a les lavoirs de Courbon, et il y a aussi au niveau de l'école beaucoup de photos qu'une personne, que M. Molinati a fait, qui retrace un peu la vie de Courbon avec les anciennes personnes de Courbon, et puis des gens qui sont encore en vie aujourd'hui. Ça retrace un peu la vie de Courbon.